Radio Sainte-Afrique. Cécile Blanche est avec vous pour vous raconter quelques histoires. Ce sera la dernière émission où je vous parlerai des femmes. Mais je n'abandonne pas le sujet. Avec Chamanta, Félix Potin, Chaussette, dans l'émission Barachat sur Radio Sainte-Afrique, je continuerai à explorer quelques facettes de cet inépuisable sujet, les femmes. Aujourd'hui, je vais parler des mères. C'est le rôle dans lequel les hommes ont voulu pendant longtemps cantonner les femmes. Ah, vous êtes les seuls à pouvoir enfanter? Eh bien, on va vous arranger ça. Procréez, procréez, faites-nous des enfants, des garçons surtout. Le reste, on s'en charge. Mais la mère reste un symbole fort pour toutes les civilisations, à commencer par la terre-mère, célébrée par tous les peuples, mais abandonnée dans notre monde occidental dès lors que nous avons eu droit aux religions révélées. Aux hommes, comme par hasard, uniquement. Et puis, quand on évoque ou invoque les mères, arrivent tout de suite les déesses, entités mythologiques dominantes pour de nombreuses civilisations et pendant des milliers d'années, auxquelles on demandait bienfaits et à qui on rendait un culte important il n'y a pas si longtemps encore. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Marie pour les chrétiens, donc essentiellement pour son rôle de mère de Jésus, mais les pères de l'Église, les théologiens, n'ont pas pu faire que pour le bon peuple et les peuples christianisés plus ou moins de force. Marie représente un pouvoir au-delà du simple enfantement de Jésus. Et on prie Marie comme on priait les déesses pour qu'elles nous accordent protection, bienfaits, qui n'ont rien à voir avec l'enfantement. En passant, je me demande, est-ce que les hommes adressent des prières à Marie ? Mais attention, le culte de la déesse mère renaît aujourd'hui dans les mouvements néo-païens comme Wicca aux États-Unis. Je vous en parlais dans la précédente émission avec Starhawk. Et ces néo-païennes ne sont pas là pour faire de la figuration. Elles veulent changer le monde en balayant nos désormais vieux réflexes de consommation et de repli sur soi et en virant en même temps ceux qui les ont programmés.
Feathered breaths. Oh, my mama, she told me, use your voice, my little bird. She said, sing, 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 sing melodies. And she sang, 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 how my mama, she did give me fancy feet I'll be dancing on. And I'll tap, tap, tap my toes into those creaking floorboards. Oh, my mama, she took my little hand and held on tight. All the mamas give the waters of their wells. All the mamas give the babies this very dirt we're walking on. Oh, my mama, she gave me.
La mère, donc. Dans la littérature, on trouve de nombreuses références à la mère qui entretient un stéréotype qui ne relate, bien sûr, et point sans faux, une réalité générale. Je cite « Oh, l'amour d'une mère, amour que nul n'oublie, pas un merveilleux qu'un Dieu partage et multiplie. Victor Hugo. Elle est encore jolie, bonne, douce. C'est une excellente mère de famille, fidèle à tous ses devoirs, pieuse et non dévote. Stendhal. La Française est un être de maison. Elle veut garder les enfants chez elle et les élever. Elle a un goût tenace de la famille. Elle veut que la famille soit réunie dans les mêmes murs. Avant tout, elle est une mère. Chardonne, 1959. Et puis, il y a une utilisation que je qualifierais de paradoxale du mot « mère ». Par exemple, on parle de carte mère à propos de l'architecture d'un ordinateur. La carte mère est la colonne vertébrale de l'ordinateur. Et pourquoi pas carte père ? Idem pour maison mère des grandes entreprises. Pourquoi pas maison père ? Ça pourrait vouloir dire la même chose, non ? Eh oui, à leur insu, les hommes gardent l'image et l'influence de leur mère. D'ailleurs, c'est bien connu, les hommes sont de grands enfants. Et les psychiatres enfoncent le clou. La relation entre une mère et un fils est fondée sur le narcissisme qu'aucune rivalité ultérieure ne vient déranger. Et paf, ça, ce serait du Freud. Selon Alain Braconnier, médecin, psychologue, psychanalyste, qui enseigne à l'Université Paris 5, la mère, première femme de la vie d'un homme, modèle inconsciemment sa future vie amoureuse. Mais peut-être pas que, selon moi, si vous permettez. Il a même décelé 5 profils de mères et explique leur influence dans un bouquin intitulé « Mère et fils ». Un peu de musique avant de voir ce qu'il en est de ces profils.
Maman, dans mon petit cœur d'enfant, et le premier à moi, je pensais à jamais. Mais dans une vie, tout peut changer. L'amour fleurit, peut faner. Seuls les beaux jours peuvent pardonner. Le mauvais temps passé. Maman, mes joies adolescentes t'ont quelquefois cachées dans un jardin secret. Maman, mes crises d'ado blessantes t'ont souvent espéré sans jamais te trouver. Mais dans une vie, tout peut changer. L'amour fleurit, peut faner. Seuls les beaux jours peuvent pardonner. Le mauvais temps passé. Sans toi, je ne peux l'oublier. Maman, aujourd'hui tout est calme, mais les regrets en moi, je les garde à jamais. Mais dans une vie, tout peut changer. L'amour fleurit, peut faner. Seuls les beaux jours peuvent pardonner. Le mauvais temps passé.
Alors, que nous dit Alain Braconnier ? Il y a la mère bienveillante. C'est avant tout une femme heureuse, comblée par son compagnon. Et elle fait des hommes confiants, bien dans leur masculinité. Il y a la mère surprotectrice. Elle est anxieuse, intrusive, possessive, fusionnelle. Écrasée par cet amour féroce, ses fils grandissent dans l'anxiété, l'immaturité affective et la culpabilité. La mère amoureuse, ou autre profil, par son regard, ses gestes, ses mots, témoigne de l'admiration amoureuse qu'elle voue à son fils, sur qui elle projette entièrement son idéal masculin. Cet élu va partir en quête de celle qui prendra le relais de sa mère et qui le couvera à vie du même regard émerveillé. La mère distante, parce qu'elle doute profondément de ses compétences maternelles, cette mère vit dans la crainte de mal faire, donc de faire souffrir son enfant. Parmi les fils de mères distantes se trouvent souvent les misogynes, voire les misanthropes. N'ayant pas été enveloppés de la chaleur et de la sécurité de l'amour maternel, ils ont du mal à faire confiance aux femmes et développent souvent un discours cynique sur l'amour et la sexualité. Enfin, la mère castratrice. Qu'elle en ait conscience ou non, elle est en guerre avec les hommes, qu'elle veut mettre sous sa coupe. Les fils de ces mères surpuissantes ont une attitude paradoxale. Ils semblent les fuir tout en recherchant leur copie conforme, afin de rejouer avec leur compagne la relation dominante-dominée. Mais la soumission au féminin a des limites. Ils peuvent aussi faire preuve de violence, verbale ou physique, lorsqu'ils se sentent agressés dans leur masculinité par les femmes. Ils se vengent ainsi de toutes les humiliations maternelles. Après ces considérations sur les mères, vous n'allez pas échapper à Arnaud et à ses yeux de ma mère.
Ma mère, elle a quelque chose, dangereux, quelque chose d'une allumeuse, quelque chose d'une amèreuse. Elle a les yeux qui tuent, mais j'aime ses mains sur mon corps, j'aime l'odeur au-dessous de ses bras. Comme ça, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère, oh, dans les yeux de ma mère. Il y a toujours une lumière. quelque chose dangereux, quelque chose d'une allumeuse, quelque chose d'une amertume. Et dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Ah, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours.
Et un premier conte recueilli par un ethnologue, Jean Girard, dans une société africaine en 1967. La création des hommes blancs, noirs, rouges et jaunes. Autrefois, une grosse calebasse avala les hommes du monde entier, sauf une femme en état de grossesse qui s'était cachée. Elle se réfugie dans la brousse et y vit, seule, sans aide d'aucune sorte. Un jour, elle accouche de deux garçons jumeaux. L'un se nomme Théé, qui signifie « fameux guerrier », et l'autre eut pour nom Oulaingnonsoa, qui veut dire « soldat de Dieu ». Ces enfants naissent armés de lances, arcs, flèches et couteaux de guerre. Ils grandissent aux côtés de leur mère. Parvenus à l'âge d'homme, ils sont devenus tous deux d'habiles chasseurs, tuant les éléphants, les panthères, mais surtout les animaux cruels. Un jour, leur mère leur dit « La calebasse a avalé votre père, votre grand-père, votre grand-mère, tous vos ancêtres et tous vos frères et sœurs. » Les enfants sont vivement émus en entendant ces paroles. Ils demandent « Maman, où se trouve cette diable de calebasse ?» La mère a peur de la leur montrer, car elle est dangereuse, ayant déjà avalé ses parents, son mari et tous les hommes du monde. Si elle parvenait encore à avaler ses derniers pauvres enfants, elle resterait seule, malheureuse et remplie de chagrin. Ne craignez rien, maman. Montrez-nous où se trouve la cruelle calebasse pour que nous allions la combattre. Les jumeaux vont se coucher. Le matin à l'aube, s'arment de lance, arc, flèche et couteau de guerre, puis partent vers l'endroit désigné. De loin, ils entendent les cris de la calebasse au milieu de la forêt. « C'est moi, l'énorme calebasse qui ai avalé les hommes du monde entier. Si j'en trouve d'autres aujourd'hui, je les avalerai encore. » Les enfants se murmurent l'un à l'autre de marcher tout doucement. En approchant un peu, ils aperçoivent l'énorme calebasse qui rugit, roulant, montant et descendant une côte. Ils se font des signes. Immédiatement, l'un passe du côté où la calebasse descend et l'autre du côté où elle monte. La calebasse, entre eux, répète ses menaces en se dirigeant vers le haut. L'enfant, un genou en terre, en position de guerre, envoie sa flèche. Pfut ! Elle pénètre en plein cœur de la calebasse qui roule de l'autre côté où le second enfant l'attend. D'un coup de lance, il la fend en deux. La calebasse s'ouvre. Et alors, qu'y a-t-il dans la calebasse ? Les hommes, des hommes superposés comme les rayons de cire dans une ruche, sur quatre couches. Sur le premier rayon étaient les corps blancs, c'est-à-dire les Européens de France. Sur le second, les corps jaunes, c'est-à-dire les Allemands. Sur le troisième, les corps rouges, c'est-à-dire les Esquimaux des pôles nord et sud. Et sur le quatrième, les Noirs d'Afrique. Après leur délivrance, les hommes repartent dans leur pays. Et c'est grâce aux deux jumeaux que des races de différentes couleurs vivent aujourd'hui sur la terre. Et maintenant, écoutons un groupe de femmes africaines qui nous chante une prière à la montagne sacrée pour avoir un enfant.
ebola bide ilero imana wolotinya siminya siti bolo furumu sala kuna yerene
isoni
maintenant. Les fouilles archéologiques ont révélé la présence de figures féminines dès le néolithique, la plus connue étant la Vénus de Willendorf. Ces figures féminines recouvrent divers aspects, terrestres, aquatiques, telluriques, agricoles, éoliens, et ce, à travers le monde. Astarté, Ishtar, déesse sémitique, Isis, déesse de l'Égypte antique, Marie, déesse basque, Atargatis, déesse syrienne, Anaïtis, déesse adorée jadis par les Lydiens, les Arméniens et les Perses, Aphrodite, Rhea, Gaïa ou encore Déméter, déesse grecque que nous connaissons, Bélissama, la très brillante déesse gauloise, et même Myriam ou Xingmo, sainte mère des Chinois. Vous connaissez une représentation de déesse celte, la statue menhir de Saint-Cernin. Ce culte aux déesses mères correspond au fait qu'en ces temps anciens, la société était régie par les femmes. Il en reste des traces dans des sociétés dites primitives, comme en Chine, la civilisation des Mosuo. La majorité des Mosuo vivent encore dans des grandes maisons clans. Toutes les personnes d'une maison clan ont le nom de la femme la plus âgée, la mère du clan. Les noms, aussi bien que la propriété commune de la maison et de la terre, sont exclusivement hérités par la ligne femelle. Au Japon, sur l'île d'Okinawa, la culture ancestrale reflète l'organisation matriarcale caractéristique de la société. Si le pouvoir civil était partagé par un roi et une grande prêtresse, les actions militaires étaient menées au seul nom de la grande prêtresse, car les déesses qu'elle servait étaient considérées comme les protectrices du genre humain. Malgré une évolution des mentalités, les femmes d'Okinawa ont en général, paraît-il, conservé une position sociale bien plus enviable par rapport aux hommes que les femmes de Chine ou du Japon. Cependant, un esprit chagrin, l'anthropologue Alain Testard, remet totalement en cause l'hypothèse de la déesse-mère, que proclameraient les mythes. Dans de nombreuses régions du globe, on constate que dans les mythes de groupes patriarcaux, les femmes avaient à l'origine un rôle prépondérant. C'est ce que je viens de dire. Or, ces mythes ont pour point commun d'évoquer non seulement une domination féminine, originelle, mais aussi de montrer que cette domination était désastreuse. Ils permettent donc, ces mythes, de justifier la domination actuelle des hommes dans ces sociétés. Voilà un astucieux et élégant retournement d'argument.
Je t'aime, maman, maman. Je t'aime passionnément. Je t'aime, maman, maman. Je t'aime simplement. Je t'aime, maman, maman. Je t'aime passionnément. Je t'aime, maman, maman. Je t'aime simplement. Oh, je t'aime simplement. Être assez grand, alors aujourd'hui je sais. Tu l'as bien compris, je crois. Je t'aime en effet. Tu l'as bien compris, je crois. Je t'aime pour de vrai. 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 Je vous aime pour de vrai. Je vous aime pour de vrai.
Mais nous allons continuer à glorifier le rôle des femmes, des déesses, par exemple avec ce conte Hopi, la création des papillons. Quand la terre était jeune, aucun papillon ne volait çà et là dans les airs et n'illuminait les jours de printemps et d'été de leurs ailes portant les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y avait des reptiles qui furent les ancêtres des papillons. Mais ils ne savaient pas voler, ils ne savaient que ramper par terre. Ces reptiles étaient magnifiques. Mais le plus souvent, les humains, lorsqu'ils se déplaçaient, ne baissaient pas les yeux vers la terre. Aussi, ne voyaient-ils pas leur beauté. En ces temps-là, vivait une jeune femme qui s'appelait Fleur de Printemps et qui était une joie pour tous ceux qui la connaissaient. Elle avait toujours le sourire et un mot gentil à la bouche, et ses mains étaient semblables au printemps le plus frais pour ceux qui étaient atteints de fièvre ou de brûlure. Elle posait ses mains sur eux, et la fièvre aussitôt quittait leur corps. Quand elle atteignit l'âge adulte, son pouvoir devint encore plus fort, et grâce à la vision qu'elle avait reçue, elle devint capable de guérir les gens de la plupart des maladies qui existaient alors. Dans sa vision, d'étranges et belles créatures volantes étaient venues à elle et lui avaient donné le pouvoir de l'arc-en-ciel qu'ils portaient en eux. Chaque couleur de l'arc-en-ciel avait un pouvoir particulier de guérison que ces êtres volants lui révélèrent. Ils lui dirent que pendant sa vie, elle serait capable de guérir et qu'au moment de sa mort, elle libérerait dans les airs des pouvoirs de guérison qui resteraient pour toujours avec les hommes. Dans sa vision, il lui fut donné un nom, celle qui tisse dans l'air des arcs-en-ciel. Tandis qu'elle avançait en âge, celle qui tisse dans l'air des arcs-en-ciel continuait son travail de guérisseuse et dispensait sa gentillesse à tous ceux qu'elle rencontrait. Elle rencontra aussi un homme, un chaman, et elle le prit pour mari. Ils eurent ensemble deux enfants et les élevèrent pour qu'ils soient forts, sains et heureux. Les deux enfants avaient aussi certains pouvoirs de leurs parents et eux-mêmes devinrent plus tard des guérisseurs et des chamanes. Tandis qu'elle vieillissait, le pouvoir de celles qui tissent dans l'air des arcs-en-ciel grandit encore. Et tous ceux qui vivaient dans les environs de la région où elle habitait vinrent à elle avec leurs malades, lui demandant d'essayer de les guérir. Elle aidait ceux qu'elle pouvait aider. Mais l'effort de laisser passer en elle tout le pouvoir finit par l'épuiser. Et un jour, elle sut que le moment de remplir la seconde partie de sa vision approchait. Tout au long de sa vie, elle avait remarqué que des reptiles magnifiquement colorés venaient toujours près d'elle quand elle s'asseyait par terre. Ils venaient contre sa main et essayaient de se frotter contre elle. Parfois, l'un d'eux rampait le long de son bras et se mettait près de son oreille. Un jour, qu'elle se reposait, un de ces reptiles vint jusqu'à son oreille. Il lui parla, lui demandant si elle pourrait faire quelque chose pour lui. Car, il le savait, elle avait remarqué que lui et ses frères et sœurs lui avaient toujours rendu service. « Ma sœur, mon peuple a toujours été là pendant que tu guérissais, t'assistant grâce aux couleurs de l'arc-en-ciel que nous portons sur le corps. À présent que tu vas passer au monde de l'esprit, nous ne savons comment continuer à apporter aux hommes la guérison de ces couleurs. Nous sommes liés à la terre, et les gens regardent trop rarement par terre pour pouvoir nous voir. Il nous semble que si nous pouvions voler, les hommes nous remarqueraient et souriraient des belles couleurs qu'ils verraient. Nous pourrions voler autour de ceux qui en auraient besoin, qui auraient besoin d'être guéris, et laisserions les pouvoirs de nos couleurs leur donner la guérison qu'ils peuvent accepter. Peux-tu nous aider à voler ? Celle qui tisse dans l'air des arcs-en-ciel promit d'essayer. Elle parla de cette conversation à son mari et lui demandant si des messages pourraient lui venir dans ses rêves. Le matin suivant, le mari se réveilla, excité par le rêve qu'il avait fait. Quand il touche doucement celle qui tisse dans l'air des arcs-en-ciel pour le lui raconter, elle ne répond pas. Il s'assoit pour la regarder de plus près et voit que sa femme était passée au monde des esprits pendant la nuit. Pendant qu'il prie pour son âme et fait des préparatifs pour son enterrement, le rêve qu'il avait eu lui revint à l'esprit. Et cela le réconforte. Quand le moment est venu de porter celle qui tisse dans l'air des arcs-en-ciel à la tombe où elle serait enterrée, il regarde sur sa couche et, l'attendant, se trouve le reptile et qu'il pensait bien y trouver. Il le ramasse avec précaution et l'emporte, tandis que l'on met le corps de sa femme en terre et qu'on s'apprête à le recouvrir, il entend le reptile qui dit « Mets-moi sur son épaule à présent. Quand la terre sera sur nous, mon corps aussi mourra, mais mon esprit se mêlera à l'esprit de celle qui fut ta femme et ensemble nous sortirons de terre en volant. Alors nous retournerons vers ceux de mon peuple et leur apprendrons à voler, de façon à ce que se poursuive le travail de ton épouse. Elle m'attend. Pose-moi à présent. » L'homme fait ce que le reptile lui avait dit, et l'enterrement se poursuit. Quand tous les autres sont partis, l'homme reste en arrière quelques instants. Il regarde la tombe, se souvenant de l'amour qu'il avait vécu. Soudain, de la tombe sort en volant une créature qui avait sur ses ailes toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Elle vole vers lui et se pose sur son épaule. « Ne sois pas triste, mon époux. À présent, ma vision s'est totalement réalisée et ceux que j'aiderai désormais à enseigner apporteront toujours aux autres la bonté de cœur, la guérison et le bonheur. Quand ton heure viendra de te transformer en esprit, je t'attendrai et te rejoindrai. » Quand l'homme changea de monde quelques années plus tard et fut enterré, ses enfants restèrent en arrière après que tous les autres s'en furent allés. Ils remarquèrent une de ces nouvelles créatures magnifiques qu'ils appelaient papillons, voletant auprès de la tombe. En quelques minutes, un autre papillon, d'égale beauté, sortit en volant de la tombe de leur père, rejoignit celui qui attendait, et ensemble, ils volèrent vers le nord, le lieu du renouveau. Depuis ce temps-là, les papillons sont toujours avec les hommes, éclairant l'air et leur vie de leur beauté. Parler. Il s'agit en Afrique des Tumayes. Afin de fuir les mutilations sexuelles, les mariages forcés, les viols, les violences conjugales, des femmes se sont organisées en village. En 2001, une trentaine de femmes est partie loin des villages traditionnels pour former le leur, au nord du Kenya, un village de 2 hectares. Tumaye veut dire espoir de vie. Elles vivent dans des huttes construites par elles-mêmes, sans eau potable, mais pas loin d'une rivière qui a donné le nom à leur village, Umoja. Le village est exclusivement féminin. Les hommes y sont interdits. Il devient le refuge des femmes Samburu, groupe ethnique de la région. Elles élèvent seules les enfants des deux sexes qu'elles gardent avec elles. Comme le village est jeune, on ne sait pas ce qu'il adviendra des garçons après leur adolescence. Le conseil Tumaye prend les décisions pour tout le village. Achat, vente, envoi des filles à l'école. Pour acter les choix, le conseil se réunit dans une hutte et vote à main levée de manière démocratique. Les relations sexuelles sont acceptées, mais elles doivent impérativement se passer en dehors du village. Les femmes vivaient du commerce du poivre sauvage, de l'élevage de chèvres et de poules. En 2003, en perdant leur bétail victime de la sécheresse, les Tumayes prirent la décision de vivre de leur artisanat auprès des touristes. Seulement, le succès du Moja attise la jalousie des hommes qui attaquent régulièrement le village et cause de nombreux problèmes à sa fondatrice, Rebecca Lolosoli. Voilà un exemple de ce que nous appellerions ici un village en transition, un village où s'invente impossible pour demain. Et voici un conte d'aujourd'hui à la gloire de l'amour et de la fidélité maternelle. L'étoile sur la colline de Ngo Tu Lap. Personne à Oach ne sut que cette nuit-là, le fils de Madame Ailash est revenu au village. L'aube va se lever, saluée par les chants du coq. Madame Ailash reconnaît immédiatement le pas de son fils, Ung dès qu'il a mis les pieds au bas de la colline. Des pas fermes qui font vibrer le sol, mais des pas toujours aussi saccadés qu'avant, du temps où, entre ses bras, il avait appris à marcher. Elle se redresse vite, remonte le manchon de la lampe à pétrole, puis les mains tremblantes ouvrent la porte. Il y a tant de nuits qu'elle attend ce moment-là. Malgré l'avis de décès qu'elle a reçu des autorités militaires 4 ans plus tôt. À l'époque, tout le village était venu en masse lui présenter ses condoléances et la réconforter. Comme elle est timide, elle s'est réfugiée dans le silence. Mais elle a refusé catégoriquement toutes les allocations d'essai du gouvernement. Se pouvait-il que son petit Hung ne soit plus de ce monde? Lui qui était en pleine force, si bien portant, et dont on louait la piété filiale. Il allait forcément revenir. Elle en était sûre. Il allait revenir. Et sautant du lit dès l'aube, fringant comme un jeune coq, il irait travailler la terre. Il savait creuser les sillons droits et profonds. Le soir, il partirait la hache à la main, abattre quelques eucalyptus pour en faire du bois. Elle est vraiment sûre que son fils va revenir. C'est pourquoi elle ne ferme pas l'œil de la nuit et elle laisse toujours la lampe allumée sur l'autel, sous le portrait de son défunt mari. Deux gâteaux au sésame, le préféré de Hung, y trônent en permanence. Fallait voir comme il ingurgitait un énorme gâteau au sésame le jour de la fête du tête. C'est pourquoi elle a toujours en réserve de la pâte dans une petite jarre pour le seul cas où son fils arriverait à l'improviste. Depuis 4 ans, Madame Lache ne compte plus les fois où elle a dû confectionner des gâteaux au sésame en remplacement de ceux qui moisissaient sur l'autel. La masure de Madame Lache est située au sommet de la colline Mouchang. Aussi, les gens du coin sont habitués, nuit après nuit, à voir scintiller là-haut la petite étoile solitaire et chaleureuse. Ils en ont le cœur serré. La pauvre, il ne reviendra pas. Ils le disent encore ce soir, car ils ne s'attendent pas à ce que cette vieille maman puisse être exaucée dans sa foi inébranlable. Hung apparaît en effet sur le pas de la porte. C'est bien lui, son petit haut, la chair de sa chair. Il est là, vêtu d'un uniforme kaki, le ballot sur l'épaule. Il est là, gigantesque, sûr de lui, comme elle l'a toujours imaginé. La mère et le fils se jettent dans les bras l'un de l'autre en pleurant à chaudes larmes. « Tu meurs de faim !» dit-elle en offrant à son fils les 2 gâteaux de sésame disposés sur l'autel. Il dévore les gâteaux pendant que sa mère le couvre des yeux. « Quel goinfre tu fais ! Comme tu te régales !» À ce moment, le jour est sur le point de se lever au-dessus du village, toujours plongé dans le sommeil. Personne à Oash ne sut jamais que Hung était revenu. Et le lendemain, tout le village accompagne la mère, le visage apaisé, jusqu'au cimetière. L'enterrement à peine terminé, la pluie se met à tomber dru. On est surpris. C'était comme un signe d'adieu à celle qui avait enfin retrouvé le bonheur. La petite étoile, elle, cessa de scintiller la nuit sur la colline de Mouchang.
Salut maman, je suis de retour après 20 ans d'un long parcours de l'eau à couler sous les ponts. Et je suis devenu un peu moins con. Je t'ai quitté pour cette fille, tu sais, celle que tu trouvais jolie avec son sourire de déesse et ses yeux noyés de tendresse. On est parti vivre nos rêves alors que l'adolescence s'achève, même si toi tu ne voulais pas. Et je n'écoutais déjà que moi. Je t'ai guidé pour la musique, celle que tu trouvais magnifique. J'avais l'ambition des plus grands, mais je n'avais pas leur talent. le temps fait son chemin avec les remords voisins. Et j'ai fini par regretter de ne pas t'avoir écouté. Mais l'homme assassin admirable qui commet lui-même ses erreurs, voulant écrire sa propre femme en surpassant toutes ses peurs.
Voilà, j'en ai terminé avec les femmes. Tout au moins dans la cour des comptes. Non, pas tout à fait. Je continuerai à puiser parmi les artistes femmes pour l'illustration musicale des émissions. Le mois prochain, je vous raconterai des histoires de diables. Pauvre diable qui n'arrive pas à faire peur et qui est souvent berné. Ah oui, si vous avez raté quelques émissions, il y a le podcast sur Radio Saint-Afrique. Mais aussi, mon site que je viens de réouvrir sur le net, blancheflèche.com. Une petite pensée pour terminer. Le cœur d'une femme est aussi fuyant qu'une goutte d'eau sur une feuille de lotus. Bonsoir.
Je sais que tu m'en as voulu de ne pas avoir été là. Ma vie valait d'être vécue, même si t'en as souffert pour moi. Oui maman, je suis de retour. Je voulais juste te dire je t'aime, te prouver une fois mon amour. Même si c'est devant ce chrysanthème.